Zoucha sur le toit. Les talons enfoncés dans le papier goudronné, 23 étages au-dessus de la 110e rue, berçant son petit-fils nouveau-né dans ses bras. Comment avait-il atterri là? Cela n'avait rien de simple, comme aurait dit son père. La simplicité ne faisait pas partie de son patrimoine. Pour commencer de façon précise, Bronwyn était mort depuis 2 semaines quand, tôt tristesse, il était revenu en ce monde et y avait passé 50 ans à essayer d'écrire des livres inutiles. Des complications étaient apparues après l'ablation d'une tumeur à l'intestin. Relié à un respirateur, avec des poches pour chaque liquide entrant ou sortant, son corps était resté 15 jours étendu sur un lit à roulettes, menant une guerre médiévale contre une double pneumonie. Pendant 2 semaines, Bronwyn était resté en suspens, à la fois mort et pas mort. Comme la maison dans le Lévitique, il avait été infecté par la peste. On le nettoya, on le démonta, pierre par pierre. Ça marcherait ou pas? Soit la peste disparaîtrait, soit elle l'avait déjà envahi. En attendant le verdict, il fit des rêves extravagants. Quelles hallucinations! Drogué aux médicaments avec une fièvre de cheval, il se vit en anti-Earls, discourant d'un littoral à l'autre devant des foules si énormes qu'elles regardaient des simulcasts de simulcasts. Un rabbin de Cisjordanie émit une fatwa contre lui, avec une récompense de 10 millions de dollars financée par un roi de casino juif. Poursuivi pour trahison, Bronwyn fut caché en lieu sûr quelque part au cœur de l'Allemagne. Par la fenêtre, il voyait les collines arrondies de Bavière, du Weserbergland. On lui épargnera les détails pour son bien, au cas où, n'y tenant plus, il téléphonerait à sa femme Mira, ou à son avocat, ou encore au rabbin Shannon Benzvi du Gush Etzion. Et s'il appelait le rabbin, que lui dirait-il? Je me rends, venez me chercher, 3e chemin de terre sur la gauche, après la laiterie où Brundil chante Edelweiss au pied des vaches, et n'oubliez surtout pas votre fusil d'assaut. Ou peut-être le rabbin avait-il l'intention de lui trancher la gorge à l'aide d'un couteau à découper. De son lieu sûr en Allemagne, il tint conseil avec Buber, avec le rabbin Akiva et avec Gershom Scholem, allongé paresseusement sur une peau d'ours dont il grattait l'arrière des oreilles. Il monta avec Maïmonide à l'arrière d'une voiture blindée pour une conversation sans fin. Il vit Moïse Ibé Ezra et étendit Salaud Baron qu'il appela en agitant les bras pour dissiper la fumée. Il ne le distinguait pas, mais savait, à sa respiration bruyante, qu'il se trouvait dans cette nébuleuse tourbillonnante, Salaud Whitmire Baron, qui connaissait 20 langues et avait témoigné au procès d'Eichmann, le premier homme à obtenir une chaire d'histoire juive dans une université occidentale. Salaud, quel malheur as-tu attiré sur nos têtes? Pendant ces semaines de fièvre, des choses prodigieuses lui arrivèrent, d'indescriptibles révélations. Détaché du temps éphémère et transcendantal, Bronwyn voyait la véritable forme de sa vie, la façon dont celle-ci avait toujours dévié en direction du devoir. Pas seulement sa vie, mais aussi celle de son peuple, les 3000 ans de souvenirs traîtres, de souffrances hautement respectées et d'attentes. Le 15e jour, la fièvre tomba et il se réveilla guéri. Son corps était redevenu habitable, il vivrait encore un peu. Tout ce qui restait, selon le passage du Lévitique, c'était l'acte rituel d'expiation nécessitant 2 oiseaux, l'un destiné au sacrifice, l'autre autorisé à vivre. L'un tué, l'autre trempé dans le sang de son congénère et agité 7 fois autour de la maison avant d'être libéré. Quel sursis! Il ne lisait jamais ce passage sans se mettre à pleurer. Mais il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation et elle sera pure. Pendant ses hallucinations, son unique petit-fils vint au monde. Dans son état d'extrême faiblesse, Bronwyn n'était pas loin de croire que c'était son énergie mentale qui avait accompli le travail de l'accouchement. Sa fille cadette, Ruti, n'aimait pas les hommes. Lorsqu'elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte, à 41 ans, Bronwyn avait accueilli la nouvelle comme un miracle d'immaculée conception. Mais sa joie avait été de courte durée. Quelques mois plus tard, il s'était fait faire une analyse sanguine de routine qui conduisit à une coloscopie, qui conduisit, un mois et demi avant la naissance prévue du bébé, à la découverte de sa propre gestation. S'il avait cru à tout cela, il aurait pu y avoir quelque chose de mystique. Suant et gémissant, souffrant abominablement du ventre, il avait poussé l'idée du bébé à travers l'étroit canal de l'incrédulité et l'avait mis au monde. Ce qui avait failli le tuer. Non, ce qui l'avait bel et bien tué. Il était mort pour l'enfant. Puis, une espèce de miracle l'avait ramené à la vie. Dans quel but? Un matin, très tôt, on lui enleva le respirateur. Le jeune médecin penché au-dessus de lui avait les yeux humides du prodige qu'il avait accompli.
Rotman, inhala.
Sa première bouffée d'air frais depuis 2 semaines et elle lui monta à la tête. Dans un vertige, il attira le médecin à lui, si près que tout ce qu'il voyait c'était ses dents, si blanches, d'une beauté si éblouissante. Et c'est à ses dents, les choses les plus proches de Dieu dans cette pièce, qu'il chuchota « Je n'étais pas Usha ». Le médecin ne comprit pas et Brandman dut se répéter, poussant très fort les mots hors de sa bouche. Il finit par être entendu. « Bien sûr que non, » fit le médecin d'un ton apaisant, se dégageant de la faible étreinte de son patient et tapotant doucement la main transpercée par la perfusion intraveineuse. « Vous étiez le professeur Brandman et vous l'êtes toujours. » Si on ne lui avait pas coupé les muscles du ventre, il aurait peut-être ri. Que pouvait cet homme connaître du regret? Il n'avait sans doute pas encore d'enfant. À le voir, même pas d'épouse. Tout était devant lui. Bientôt, riche des promesses de la journée, il irait se chercher un café. Et ce matin même, il venait de ramener un mort à la vie? Que pouvait-il savoir d'une existence gâchée? Oui, Brandman avait été Brandman. Il était toujours Brandman et en même temps, il n'avait pas su être Brandman, exactement comme le rabbin Usha n'avait pas su être l'homme qu'il aurait dû être. Il avait appris la légende étant enfant. Après sa mort, le rébbe d'Anipoli avait entendu le jugement de Dieu. Honteux de n'avoir été ni Moïse ni Abraham. Mais lorsque Dieu apparut enfin, il lui demanda simplement « Pourquoi n'as-tu pas été Usha ?» L'histoire s'arrêta là. Mais Brandman avait rêvé le reste. Dieu se cacha de nouveau et Usha, resté seul, chuchota. Parce que j'étais juif et qu'il n'y avait plus de place pour être quoi que ce fût d'autre, pas même Usha. La lumière limpide du matin filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital et un pigeon installé sur le rebord s'enleva d'un coup d'aile. La vitre dépolie cachait le mur de briques d'en face et de l'oiseau. Et il ne voyait qu'une vague forme ascendante. Mais dans sa tête, le bruissement d'ailes résonna comme une espèce de ponctuation, une virgule griffant la page blanche. Cela faisait des années que son esprit n'avait pas été aussi clair ni aussi concentré. La mort l'avait nettoyé de l'inutile. Ses pensées, désormais d'une autre qualité, étaient absolument percutantes. Il avait l'impression qu'il était enfin allé au fond des choses. Il avait envie de le lire à Mira. Mais où était Mira? Pendant les longues journées de sa maladie, il l'avait toujours vue assise sur une chaise à son chevet, ne s'absentant que quelques heures, la nuit, pour aller dormir. À cet instant, Brandman comprit que son petit-fils était né pendant qu'il était mort. Il voulait savoir, avait-on donné son nom au bébé? Cela faisait des années qu'il n'enseignait plus et on le disait occupé à écrire les chefs-d'œuvre qui résumeraient toute une vie d'érudition. Mais personne n'en avait jamais rien vu et des bruits circulaient dans le département, à l'Université Columbia. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, il connaissait toutes les réponses. Sa vie a toujours flotté sur un vaste océan d'intellection et il n'avait eu qu'à plonger son verre. Il avait remarqué trop tard la lente évaporation de cet océan. Il avait cessé de comprendre. Cela faisait des années qu'il ne comprenait plus. Il s'asseyait chaque jour à son bureau dans la pièce exiguë, au fond de l'appartement, bourré d'objets d'art primitifs que Mirai lui avait achetés pour 3 fois rien 40 ans plus tôt, lors d'un voyage au Nouveau-Mexique. Il était resté assis là pendant des années, mais rien ne lui était venu. Il avait même envisagé d'écrire ses mémoires, mais n'avait fait que remplir un carnet avec le nom des gens qu'il avait connus autrefois. Lorsque ses anciens étudiants passaient le voir, il se mettait à disserter, assis sous les masques primitifs, à propos des difficultés auxquelles est confronté l'historien juif. Les Juifs avaient depuis longtemps fini d'écrire l'histoire, disait-il. Si les rabbins avaient fermé le canon de la Bible hébraïque, c'était parce qu'il estimait qu'il avait plus d'histoire qu'il ne leur en fallait. 2000 ans plus tôt, la porte s'était close sur l'histoire sacrée, la seule dont le juif eut besoin. Puis étaient arrivés le fanatisme et le messianisme, la barbarie des Romains, le fleuve de sang, le feu, la destruction et finalement l'exil. Dès lors, les juifs avaient décidé de vivre en dehors de l'histoire. L'histoire, c'était ce qui arrivait aux autres. Les juifs, eux, attendaient la venue du Messie. Pendant ce temps, les rabbins s'étaient uniquement consacrés à la mémoire juive et, durant 2 millénaires, cette mémoire avait soutenu tout un peuple. Alors qui était-il, lui, qui était-il les uns et les autres pour semer le doute? Ayant déjà entendu tout cela, les étudiants s'étaient faits de plus en plus rares. Ruti, elle, ne pouvait supporter de rester plus d'un quart d'heure. Quant à sa fille aînée, elle était depuis longtemps perdue pour lui. De temps à autre, elle arrêtait un instant de se jeter devant les bulldozers israéliens en Cisjordanie pour appeler à la maison. Si c'était lui, au lieu de Mira, qui prenait la communication, elle raccrochait et retournait auprès des Palestiniens. Il l'entendait un court instant respirer dans le combiné. Carole, seule la tonalité lui répondait. Que lui avait-il donc fait? Il n'avait pas été un bon père, c'est vrai, mais avait-il été si mauvais que cela? Accaparé par sa vie universitaire, il avait laissé à Mira le soin de s'occuper des filles. Ce choix cachait-il autre chose? Tout l'intérêt qu'elle avait pu lui porter était retombé. Quand Mira nattait leur chevelure cuivrée à l'heure du coucher, la délicate dentelle de leur journée se déroulait, avec leur triomphe et leur déception. N'étant ni attendue ni désirée pendant ce rituel, il restait enfermé dans la pièce du fond, convertie en bureau après la naissance de Carole. Mais le sentiment d'être exclu, impuissant, insignifiant, alimentait sa colère. Par la suite, il regretta chaque jour les choses qu'il avait dites. Et pourtant, ses filles n'avaient jamais eu peur de lui. Elle avait toujours fait ce qu'elle voulait. Ses enfants n'avaient pas souffert sous le même joug filial que lui. Enfant unique, Bronwyn n'avait pas pu davantage trahir ses parents que leur casser la figure. Leur vie avait reposé sur son dos comme un château de cartes. Son père était arrivé à Ellis Island en tant que spécialiste des langues anciennes et avait fini professeur d'hébreu. Sa mère était devenue femme de ménage chez les riches juifs de Bronx. À la naissance de Bronwyn, elle avait cessé de travailler mais, dans sa tête, elle avait continué à arpenter pièces, escaliers, recoins et couloirs. Quand il était tout petit, elle se perdait dans ces divers espaces. Un enfant est-il capable de comprendre que sa mère est en train de se perdre? Bronwyn n'avait pas compris. Après qu'on l'eût emmené, son père et lui restèrent seuls à la maison. Avec une dévotion et une méticulosité rigoureuse, celui-ci lui avait dispensé l'enseignement requis. Chaque jour, à l'aube, dans la lumière froide du levant, Bronwyn l'avait regardé se ligaturer pour la prière. Lorsqu'il partait au travail, il demeurait voûté à l'image de la courbe qu'il avait appris à tracer à Bronwyn pour écrire l'hébreu. Jamais Bronwyn n'avait davantage aimé son père que dans ces moments-là, encore que, plus tard, il se demanda si ce qu'il avait pris pour de l'amour n'était pas en partie de la pitié mêlée au désir de protéger son père d'un surcroît de souffrance. Au bout de 3 mois, on ramena sa mère à la maison et on la cala contre des oreillers avec vue sur la tache d'eau du plafond. Sa peau, bleuâtre et luisante, était tendue sur ses chevilles. Bronwyn lui faisait la cuisine et l'aidait à manger, puis l'étudiait à la table, sous le papier tumouche, guettant ses quintes de toux sèches. Lorsque son père entrait le soir, il lui servait son repas. Après quoi, il essuyait la toile cirée et descendait les livres d'hébreu au dos de cuir effrité. Les lèvres de son père remuaient en silence, tandis que son index à l'ongle large cherchait soigneusement un certain passage. Abraham ligatura Isaac de façon qu'Isaac continua à se ligaturer jusqu'à la fin des temps. Chaque soir, au moment du coucher, Rodman vérifiait ses lanières, comme un homme vérifie une dernière fois les portes et les fenêtres de sa maison. Lorsqu'il quittait l'appartement, il verrouillait la porte en silence derrière lui et, sur ses épaules, transportait sa mère aux chevilles bleues, son père au dos voûté et les parents de ceux-ci, morts dans une tranchée, à l'orée d'une pinède. Mais pas ses filles. Avait-elle deviné le prix qu'il avait payé et finalement appris de lui? Lui, avec ses vieux livres, rabougris par le devoir? Pendant toute leur enfance, le visage sépia de son père les avait contemplés misérablement depuis le mur du salon. Or, elle n'avait cure de tout cela. Elle lui avait tourné le dos et s'en était allée d'un pas léger dans la direction opposée. Elle n'avait pas eu de scrupules à rejeter tout ce qu'il avait aimé. Et elle ne l'avait guère respecté. De Carole, il n'avait reçu que du dédain et de Ruti de l'indifférence. Il leur en avait terriblement voulu, mais, au fond de lui, avait envié leur aptitude à s'affirmer. Il avait compris, mais trop tard, qu'elle n'était pas plus heureuse que lui, ni plus libre. À 19 ans, Carole avait été hospitalisée. Lorsqu'il était allé la voir, elle était attachée au lit, en camisole de force. Sous-estimant son état, il lui avait apporté un recueil de nouvelles d'Agnon. Gênée, il l'avait maladroitement laissée sur la table. Elle regardait le plafond comme sa mère autrefois. Bronman, lui, n'avait pas souffert de ce genre de fragilité mentale. Le gène, si c'est de cela qu'il s'agissait, l'avait épargné. Ou bien Bronman avait entraîné son esprit à lui résister. Sa maladie à lui, physique et extractible, était à présent quelque part dans un bocal de laboratoire depuis sa douloureuse césarienne, et son petit-fils, né 4 semaines avant terme, était en couveuse. Non, il n'était pas désorienté, simplement abasourdi devant une telle symétrie. Ils se remettaient tous les deux, Bronman au 11e étage, son petit-fils au 6e, lui, de la mort, son petit-fils de la vie. Mira s'affairait de l'un à l'autre, telle une assistance au congrès. Les visiteurs allaient et venaient. Au bébé, il apportait des peluches et de minuscules grenouillères au coton égyptien. À Bronman, des fruits en purée et des livres qu'il était trop déconcentré pour pouvoir lire. Enfin, au jour prévu pour la sortie du bébé, Bronman fut assez en forme pour être transporté jusqu'à lui. Le matin, de bonne heure, l'infirmière russe vint lui faire une toilette à l'éponge. « On se lave pour aller voir petit-fils » chantonnait-elle tout en travaillant d'une main ferme. Baissant les yeux, il s'aperçut qu'il n'avait plus de nombril. La marque de sa naissance avait fait place à une horrible zébrure rouge d'une 10 cm de long. Que devait-il penser? La russe le véhicula le long du couloir au fauteuil roulant. Par les portes ouvertes, il voyait les mollets meurtris et les pieds crispés de presque morts dépassant des couvertures. Mais à son arrivée, la chambre débordait de gens ayant des droits sur l'enfant, sa fille et sa compagne, l'homosexuel qui avait donné son sperme et le compagnon de l'homosexuel. Bronman attendit son tour pendant plus d'une heure. Depuis le fauteuil roulant, impossible ne fût-ce que d'apercevoir le bébé complètement encerclé par ses procréateurs. Furieux, il sortit de la pièce, prit l'ascenseur dans la mauvaise direction, visita le centre de dialyse et suivit les panneaux conduisant à la cour de méditation où il passa sa colère sur un Bouddha trapu couvert de mousse. Comme personne ne venait, il décida de rebrousser chemin et de chercher querelle à sa fille. À son retour, la chambre s'était vidée. Mira lui mit dans les bras le bébé endormi, enveloppé dans des linges blancs. Retenant son souffle, il contempla les volutes parfaites et luminescentes des oreilles de l'enfant, qu'on eût dit peintes par Fra Filippo Lippi. Craignant de le laisser tomber, il tenta de déplacer le paquet dans ses bras, mais le bébé sursauta et ouvrit les yeux poisseux dépourvus de cils. Bronman sentit qu'on extirpait douloureusement quelque chose de son corps d'Hécatie, mais il refusa de lâcher l'enfant qu'il tenait serré contre sa poitrine. Cette nuit-là, au 11e étage, il se tourna et se retourna dans son lit, trop agité pour dormir. Son petit-fils était maintenant à la maison, dans son berceau, émailloté dans des linges douillets et rêvant sous un mobile qui tournoyait doucement au-dessus de sa tête. « C'est bien, dors, bébelet. Tout est paisible dans ton monde, rien ne te menace encore. Personne ne réclame ton opinion sur quoi que ce soit. » Non que l'enfant fût protégé des opinions. Elles tourbillonnaient autour de lui. Ruti avait demandé à Mira d'acheter un Moïse à l'enfant. « Quel besoin a-t-il de ce genre de choses ?» dit Brodman. Se rendant compte de son erreur, Mira réenveloppa avec peine le panier dans le papier de soie. Mais Brodman avait déjà planté ses crocs. « Combien de temps encore allons-nous jouer cette petite comédie » demanda-t-il. « Nous ne sommes plus esclaves en Égypte. D'ailleurs, nous n'avons jamais été esclaves en Égypte. » « Tu es ridicule, » dit Mira, remettant le cou fin dans l'emballage sac et le poussant du pied sous sa chaise. Brodman le savait, mais il s'en fichait. Il s'entêta. « Un Moïse ? Pourquoi Mira ? Explique-moi. » Non, il n'arrivait pas à dormir. Quelque part dans le monde, il devait y avoir des enfants nés et élevés sans précédent. À cette idée, un frisson de crainte lui parcourut l'échine. Qui aurait-il pu être s'il avait eu le choix ? Mais il avait laissé passer sa chance. Il avait accepté de se laisser broyer par le devoir. Il avait échoué à devenir vraiment lui-même, préférant céder à d'antiques contraintes. La sottise de tout cela lui apparaissait à présent. Quel gâchis ! Rendu génial par la fièvre, il avait tout compris. Les arguments des morts lui avaient été exposés, preuve incontestable de ce qui, de l'autre côté, savait. Il était mort, puis avait été rappelé à la vie afin de pouvoir instruire l'enfant, le conduire sur un autre chemin. Le lendemain matin, Mira arriva avec des petits pains au beurre qui transpiraient dans leur sachet Ziploc. Il les mangea en écoutant les histoires du bébé et de sa triomphale arrivée chez lui, de ses pipis vigoureux et de sa grande soif. Brodman, lui aussi, pissait et buvait des litres. Et lorsque le médecin vint lui rendre visite, il dit en plaisantant à Mira que ses vacances étaient bientôt terminées. Le lendemain, ou le surlendemain, Brodman rentrerait à la maison. La maison. Il s'en souvint soudain. Les heures interminables passées dans l'obscurité de la pièce du fond à tenter de remettre un fusible en marche. Jour après jour, année après année, les lignes fines du bloc-notes vierge avaient été pour lui un reproche vivant. Tout cela était terminé à présent. Il n'avait pas été ramené à la vie pour retomber dans cette absurdité. L'ambulance qui le ramena chez lui n'utilisa pas sa sirène. Deux fois trop petit, l'enfant n'avait pas été circoncis le 8e jour. À l'hôpital, on l'avait engraissé comme en selle et, une fois à la maison, il avait continué à grossir. La nouvelle venait d'arriver selon laquelle le médecin donnait son feu vert. La cérémonie aurait lieu chez Ruti. On y servirait des bagels et du saumon fumé. On avait déniché à Riverdale une femme moelle qui, rompant avec la tradition, autorisait l'anesthésie locale. Tout cela, Brodman l'entendit depuis sa chambre. Quand Mira vint lui parler, il fit semblant de dormir. Il était trop fatigué pour lui expliquer la nature de ses propres révélations. Sa fièvre avait perdu de son intensité. Les jours étaient désormais figés dans l'ennui. N'était-il pas autrefois un homme d'action ? C'est toujours ainsi qu'il s'était vu, mais quelle preuve en avait-il ? Une maigre production de livres, eux-mêmes des commentaires de commentaires d'autres livres, semblaient suggérer le contraire. Soutenu par des oreillers en mousse, il leva les yeux vers un petit coin de ciel entre deux bâtiments. Carole était une femme d'action. Elle avait perdu la tête, puis était devenue une femme d'action. Une femme qui affrontait tank et bulldozer, qui se battait pour ce en quoi elle croyait. Mais lui, son père, avait gardé toute sa tête et s'y était enfermé comme un homme qui s'enferme dans un raisonnement impeccable. Il avait maigri de 10 kilos pendant l'épreuve de la maladie et ses vêtements ne lui allaient plus. Occupé par le ravitaillement et les chaises pliantes, Mira n'avait pensé à cela que 2 heures avant le Bris Mila. Brodman se mit à crier, même si crier lui faisait encore mal, et menaça de se rendre à la cérémonie dans son peignoir couvert de taches. Mira, qui, pendant 50 ans, avait fait face à ses humeurs avec un calme olympien, continua à répondre au téléphone tout en emballant des plateaux de nourriture. Puis elle quitta l'appartement sans un mot. Brodmann entendit la porte se fermer et attisa sa propre colère en se disant qu'elle était partie sans lui. Il était sur le point de prendre le téléphone et de se défouler sur Ruti, quand Mira rentra avec une chemise de soie bordeaux et un pantalon marron prêté par le voisin du dessus, avec la femme duquel il prenait parfois le café. Dégoûté, Brodmann jeta la chemise de soie par terre en hurlant. Mais bientôt sa colère tomba comme la chaleur quitte une maison aux fenêtres délabrées, ne laissant derrière elle qu'impuissance et désespoir. 20 minutes plus tard, il était en bas, en manche de soie bouffante, pendant que le portier hélait un taxi. On était maintenant en hiver. Le taxi roulait dans les rues grises de la ville où Brodmann avait toujours vécu. Les bâtiments crasseux défilaient devant les vitres embuées. Mira n'avait rien à lui dire. Dans le hall de l'immeuble de Ruti, il attendit dans ses vêtements d'emprunt, entouré des sacs plastiques de Mira. Elle avait pris l'ascenseur pour aller chercher de l'aide. Brodmann songea à repartir. Il se vit rentrant chez lui le long des rues glacées. 17 ans plus tôt, après la mort de son père, il avait sombré dans une profonde dépression. Ça avait été une époque noire de sa vie et, au plus fort de la crise, il avait sérieusement songé au suicide. Ce n'est qu'une fois son père décédé que Brodmann avait découvert ce que sa présence dominante lui avait caché. Une ambivalence comme une ligne de faille qui menaçait à présent de renverser tout ce qui avait été construit par-dessus. Non, davantage qu'une ambivalence, une opposition. Pas à son père, qu'il avait aimé, mais à ce que son père avait exigé de lui. De même qu'on l'avait exigé de son père et du père de son père avant lui. Et comme cela sur des générations. Non, il n'était pas en colère. Avait-il hurlé le cabinet de la thérapeute. Je proteste simplement contre la charge. La charge de quoi? Avait-elle demandé, le stylo à l'air, prête à consigner la réponse dans son dossier. Tu es ridicule, dit Mira, remettant le cou fin dans l'emballage sac et le poussant du pied sous sa chaise. Brodmann le savait, mais il s'en fichait. Il s'entêta. Un Moïse? Pourquoi Mira? Explique-moi. Non, il n'arrivait pas à dormir. Quelque part dans le monde, il devait y avoir des enfants nés et élevés sans précédent. À cette idée, un frisson de crainte lui parcourut l'échine. Qui aurait-il pu être s'il avait eu le choix? Mais il avait laissé passer sa chance. Il avait accepté de se laisser broyer par le devoir. Il avait échoué à devenir vraiment lui-même, préférant céder à d'antiques contraintes. La sottise de tout cela lui apparaissait à présent. Quel gâchis! Rendu génial par la fièvre, il avait tout compris. Les arguments des morts lui avaient été exposés, preuve incontestable de ce qui, de l'autre côté, savait. Il était mort, puis avait été rappelé à la vie afin de pouvoir instruire l'enfant, le conduire sur un autre chemin. Le lendemain matin, Mira arriva avec des petits pains au beurre qui transpiraient dans leur sachet Ziploc. Il les mangea en écoutant les histoires du bébé et de sa triomphale arrivée chez lui, de ses pipis vigoureux et de sa grande soif. Brodmann, lui aussi, pissait et buvait des litres. Et lorsque le médecin vint lui rendre visite, il dit en plaisantant à Mira que ses vacances étaient bientôt terminées. Le lendemain ou le surlendemain, Brodmann rentrerait à la maison. La maison. Il s'en souvint soudain. Les heures interminables passées dans l'obscurité de la pièce du fond à tenter de remettre un fusible en marche. Jour après jour, année après année, les lignes fines du bloc-notes vierge avaient été pour lui un reproche vivant. Tout cela était terminé à présent. Il n'avait pas été ramené à la vie pour retomber dans cette absurdité. L'ambulance qui le ramena chez lui n'utilisa pas sa sirène. Deux fois trop petit, l'enfant n'avait pas été circoncis le 8e jour. À l'hôpital, on l'avait engraissé comme en selle et, une fois à la maison, il avait continué à grossir. La nouvelle venait d'arriver selon laquelle le médecin donnait son feu vert. La cérémonie aurait lieu chez Ruti. On y servirait des bagels et du saumon fumé. On avait déniché à Riverdale une femme moelle qui, rompant avec la tradition, autorisait l'anesthésie locale. Tout cela, Brodmann l'entendit depuis sa chambre. « Quand Mira vint lui parler, il fit semblant de dormir. Il était trop fatigué pour lui expliquer la nature de ses propres révélations. Sa fièvre avait perdu de son intensité. Les jours étaient désormais figés dans l'ennui. N'était-il pas autrefois un homme d'action? C'est toujours ainsi qu'il s'était vu, mais quelle preuve en avait-il? Une maigre production de livres, eux-mêmes des commentaires de commentaires d'autres livres, semblaient suggérer le contraire. Soutenu par des oreillers en mousse, il leva les yeux vers un petit coin de ciel entre deux bâtiments. Carole était une femme d'action. Elle avait perdu la tête, puis était devenue une femme d'action. Une femme qui affrontait tank et bulldozer, qui se battait pour ce en quoi elle croyait. Mais lui, son père, avait gardé toute sa tête et s'y était enfermé comme un homme qui s'enferme dans un raisonnement impeccable. Il avait maigri de 10 kilos pendant l'épreuve de la maladie et ses vêtements ne lui allaient plus. Occupé par le ravitaillement et les chaises pliantes, Mira n'avait pensé à cela que 2 heures avant le Bris Mila. Bronwyn se mit à crier, même si crier lui faisait encore mal, et menaça de se rendre à la cérémonie dans son peignoir couvert de taches. Mira, qui, pendant 50 ans, avait fait face à ses humeurs avec un calme olympien, continua à répondre au téléphone tout en emballant des plateaux de nourriture. Puis elle quitta l'appartement sans un mot. Bronwyn entendit la porte se fermer et attisa sa propre colère en se disant qu'elle était partie sans lui. Il était sur le point de prendre le téléphone et de se défouler sur Ruthie, quand Mira rentra avec une chemise de soie bordeaux et un pantalon marron prêté par le voisin du dessus, avec la femme duquel il prenait parfois le café. Dégoûté, Bronwyn jeta la chemise de soie par terre en hurlant. Mais bientôt sa colère tomba comme la chaleur quitte une maison aux fenêtres délabrées, ne laissant derrière elle qu'impuissance et désespoir. 20 minutes plus tard, il était en bas, en manche de soie bouffante, pendant que le portier hélait un taxi. On était maintenant en hiver. Le taxi roulait dans les rues grises de la ville où Bronwyn avait toujours vécu. Les bâtiments crasseux défilaient devant les vitres embuées. Mira n'avait rien à lui dire. Dans le hall de l'immeuble de Ruthie, il attendit dans ses vêtements d'emprunt, entouré des sacs plastiques de Mira. Elle avait pris l'ascenseur pour aller chercher de l'aide. Bronwyn songea à repartir. Il se vit rentrant chez lui le long des rues glacées. 17 ans plus tôt, après la mort de son père, il avait sombré dans une profonde dépression. Ça avait été une époque noire de sa vie et, au plus fort de la crise, il avait sérieusement songé au suicide. Ce n'est qu'une fois son père décédé que Bronwyn avait découvert ce que sa présence dominante lui avait caché. Une ambivalence, comme une ligne de faille, qui menaçait à présent de renverser tout ce qui avait été construit par-dessus. Non, davantage qu'une ambivalence, une opposition. Pas à son père, qu'il avait aimé, mais à ce que son père avait exigé de lui. De même qu'on l'avait exigé de son père, et du père de son père, avant lui. Et comme cela sur des générations. Non, il n'était pas en colère. Avait-il hurlé le cabinet de la thérapeute? Je proteste simplement contre la charge. La charge de quoi? Avait-elle demandé, le stylo à l'air, prête à consigner la réponse dans son dossier.